désapprendre tout ce que tu as appris.
J'aime me beurrer la biscotte.
Nom de Dieu.
Et salut à toutes et à tous, vous êtes sur Radioactive, sur 1.9 FM, et c'est l'heure de Suck My Geek. Et avec moi, Sylvaine. Coucou Sylvaine.
Hello Erwan.
Bon, aujourd'hui, émission tête à tête.
Oui.
Et je vais en profiter pour parler d'un sujet dont j'ai rarement l'occasion et tout. J'ai parlé un petit peu de Japanimation. J'ai parlé un petit peu de ce que j'ai regardé dernièrement sur différentes plateformes. Coup de cœur ou juste des choses que j'ai pu voir et qui sont un petit peu, qui font un petit peu l'actualité du monde des animés. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu le tour des dernières sorties. Je vais vous donner mes impressions, mes points de vue là-dessus. Donc Sylvain sera surtout là pour écouter les openings et me dire ce qu'elle en pense.
Ouais.
Et voilà.
Effectivement, parce qu'on n'est pas dans mon monde, mais même si je m'intéresse un petit peu, voilà, c'est pas quelque chose que je regarde beaucoup, les animés. Donc
déjà, je t'ai fait découvrir quelques trucs. Mais et là, je suis en train de te faire découvrir Hunter x Hunter.
Tout à fait. Ah, ouais, ouais. On a attaqué ces jours-ci. Enfin, j'ai attaqué du coup, puisque tu connais déjà.
C'est ça. On va démarrer avec l'opening de Vinland Saga. Et justement, on va en parler juste après.
Ocean mighty river, release my soul. I need to see the world to the unknown. I'll go against my sorrow. Mighty river, release my soul into the open road. I can stay here forever in this hollow. Oh, river, take me out, take me away, river. Oh, river, take me out. To the ocean.
Save me, save me now. Don't ever, ever have to be afraid. I will.
Et vous êtes toujours sur Radioactive 100.9 FM avec 5 My Geek. C'était l'opening de la saison 2 de Vinland Saga. T'en penses quoi de cet opening, toi, Sylvaine, du coup?
J'aime bien. Ben, c'est, du coup, on en écoute de temps en temps à la maison des openings, mais j'aime pas trop. Je dois dire, la plupart du temps, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent beaucoup trop, qui ne typent absolument pas leurs œuvres. Donc là, je ne connais pas l'animé, mais au moins, je pense, ce morceau, on peut le retenir quand même. Il y a un air qui est reconnaissable et une mélodie, quoi, qui est reconnaissable. Du coup, à voir après ce que ça donne sur le sujet, et sur comment c'est traité.
Alors,
j'ai bien aimé.
Bah, Vinland Saga. Alors, vite fait, depuis Cascalade, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qu'il hait plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. Nous sommes là dans un animé qui va se servir en fait de l'univers des Vikings pour raconter son histoire, où on va suivre effectivement l'histoire plutôt de Thorfinn, en quête d'une vengeance, en quête d'une aide qui va l'aveugler pour son propre développement, en fait, qui va devenir en fait une obsession telle que il ne vivra qu'à travers ça, qu'à travers cette haine, qu'à travers cette envie de venger la mort de son père. J'ai regardé beaucoup d'œuvres de Japanimation. J'ai ratissé différents catalogues, tu vois. Mais il y a des manières d'aborder les sujets, des fois, qui vont plus te toucher que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Et Vinland Saga en fait partie, justement. Au début, c'est vrai qu'on part sur une première saison très bourrine. Beaucoup de combats, beaucoup de sang, beaucoup de... Tu vois, voilà, ça, l'esprit viking est bien là. Et pourtant, en fait, c'est déjà dans la première saison, ils arrivent à te poser beaucoup de questions et à te faire comprendre, en fait, que tout ce cycle de la haine, tout ce cycle des combats et tout ça, est presque, comment dire, vain, en fait. Tu vois, c'est parce que tout ne fait toujours que se répéter. Et un personnage qu'on pense au départ être l'antagoniste se retrouve, en fait, au final, être celui que tu vas apprécier et suivre. Enfin, cette première saison m'avait déjà retourné la tête comme ça parce que, ouais, au début, tu suis Thorfinn et tu es là, tu suis sa quête de vengeance, en fait, et t'as presque au début envie de le voir y arriver parce que, en plus, son père, tu l'appréciais, quoi. On l'a vu qu'un ou deux épisodes, mais son père, voilà, il en la posait, tu vois, il avait un charisme et tout ça. Et t'as envie de voir ce personnage réussir à grandir, évoluer et peut-être arriver à sa vengeance. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais est-ce que t'as vraiment envie de voir ça, en fait? Et surtout que finalement, l'antagoniste, celui qui cherche à vaincre, bah, au fil des épisodes, tu commences à t'y attacher à ce mec-là, en fait. Même à sa troupe de mercenaires et tout, là, tu te dis, mais ouais. Tu vois, et à comprendre, en fait, parce que du coup, tu vas découvrir un peu plus sur lui, tu vas découvrir un petit peu plus sur son passé. Donc, c'est un animé sur les Vikings qui vient pas de nulle part. Hein, il s'agit de l'adaptation du manga de Makoto Yukimura, Planète, qui se base lui-même très librement sur l'épique islandais éponyme, avec un environnement nordique assez charmant, mais sanglant, comme je l'ai déjà dit, hein, avec des combats, encore une fois, certes badass, et avec une cinématographie, parce que là, on peut vraiment parler de cinématographie, vraiment... brillante, vraiment adaptée de manière fluide. L'œuvre raconte vraiment une aventure qui m'a touché et exalté en même temps, tu vois, parce qu'elle est cruelle, mais en même temps, il y a des moments de poésie, en fait, tu vois, c'est assez... ouais, il danse sur ces deux trucs, en fait, tu vois, et donc du coup, t'es toujours sur cette balance, en fait, entre l'horreur de ce qui se passe, l'horreur des batailles, l'horreur de la guerre, et la poésie de certaines pensées des personnages, tu vois.
A priori, ça se passe. Ils utilisent le contexte de découverte de l'Amérique du Nord par les Vikings. Ce serait ça. C'est ce que j'ai lu, mais peut-être c'est pas bien amené comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est pas bien amené. En fait, le Vinland, c'est cette terre d'accueil qu'ils espèrent et tout ça. Ce serait effectivement ce qu'ils auraient découvert, l'Amérique du Nord, effectivement. Donc ça, c'est ce qu'ils en
D'accord.
parlent. Mais on n'y va pas. On est en Europe. On est en Angleterre sur des combats, etc.
Le fond lointain, quoi.
C'est le fond lointain.
Ok, c'est l'espoir.
Voilà, c'est ça. En fait, dès la première seconde, il va être évident que Vinland Saga n'est pas voué aussi un documentaire qui est réaliste. Même si... surtout quand on voit les prouesses épiques des personnages, tu vois ce qu'ils arrivent à faire
ouais,
et tout.
Ouais,
alors, on est dans du manga,
tu vois. Ouais, ouais,
c'est ça.
Okay.
Ouais, quand le mec il balance carrément les troncs d'arbres, tu fais ouais, bon.
Oui, bon, d'accord. Oui, non,
tu vois,
effectivement.
Voilà, quand il donne des coups d'épée, tu sens que ouais, il coupe comme dans du beurre, les mecs. Bon, voilà. Mais ça marche, en fait. Ça marche. Et même si ça se veut pas être un documentaire, on sent quand même les références historiques. On sent aussi quand même qu'il y a une recherche, une documentation qui a été effectuée par l'auteur, par le mangaka, parce que ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture des bâtisses, au niveau de comment ça se passe pour les reventes, les esclaves, etc., pour quelle est la place en fait hiérarchique et tout ça, il y a plein de trucs comme ça qui vont, qui sont véridiques, qui sont très, qui sont quand même empreints de
l'histoire, aux même, traces historiques.
C'est ça. Même au niveau vestimentaire, au niveau des armures, au niveau des différences qu'on va avoir culturelles entre les peuples, on est au 11e siècle à ce moment-là. Donc tout ça, c'est bien illustré. Quand même,
d'accord.
Tu vois, c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vraiment une série qui est mature sur le destin d'homme, où tout va s'orchestrer en fait, où tout va tourner. On est dans un spectacle fait de sang et de larmes. J'avais envie de comparer ça en fait à l'Iliade, parce que c'est pas la guerre de Troie, l'Iliade, c'est le chant de la colère d'Achille, faut pas l'oublier. Et quelque part, c'est ça aussi qu'on voit là en fait, c'est le chant de la haine, le chant de la colère de Thorfinn en fait, et qu'on va, à travers qui on va vivre en fait. Et pas que d'ailleurs, c'est parce que tous les personnages qui vont graviter autour et tout, à un moment même, tu te demandes qui est vraiment le personnage principal.
D'accord.
Et surtout, c'est une œuvre qui n'est pas conventionnelle parce qu'elle peut pas être dissociée de ces deux saisons qui se doivent d'être vues ensemble, vraiment, pour vraiment la prendre comme un tout. On est sur une première saison qui est très violente, qui est très sanglante, qui est blindée de combats, et on est sur une deuxième saison où ça respire, où on n'a plus des combats, quasiment plus en fait. On est sur un personnage qui tout d'un coup ne sait plus qui il est, ne sait plus où il est, qui va raconter l'humanité, qui va raconter avec brio vraiment le chemin de la non-violence, de l'amour et du dialogue, pour faire écho à la violence de la première saison en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est, on va voir les crises géopolitiques, sociales, climatiques, tout ça qui va se graviter autour de tout ça. C'est une œuvre vraiment qui est complexe, puissante et émouvante, et que je conseille vraiment à tout le monde.
Alors j'ai vu que les deux saisons sont parues à quand même pas mal d'années d'écart, parce que la première c'était en 2019 qu'elle a été visible, et la deuxième est visible depuis quelques mois en 2023 en fait.
Ouais.
Et du coup, si tu dis qu'elles sont très liées, il y a eu un besoin de temps aussi. Je sais pas comment ils ont travaillé, même si le manga en lui-même, donc la version éditée, elle date de 2005, le démarrage, 2009 pour le public français. Mais du coup, ouais, ça a mis un peu de temps. Et juste, j'ai vu que...
Il y a eu du travail dans l'animation, encore une fois, qui est de qualité. Hein.
Oui, bah, elle a été primée, cette série, en fait. Mmh. Elle a remporté le prix du manga Kodansha, et Kodansha, je sais pas si je prononce bien, en fait, pour le meilleur manga général, et le grand prix du 13e Japan Media Art Festival. Et c'est une adaptation animée qui est considérée comme l'une des meilleures séries des années 2010, du coup, par rapport à sa première saison, évidemment. Mais voilà, donc c'est effectivement... a priori assez remarquable dans le milieu de l'animation.
Vraiment, ouais. Vraiment, j'ai été agréablement surpris. Cette deuxième saison, il y a beaucoup de personnes, j'ai lu quand même pas mal de critiques, j'ai lu pas mal de choses. Beaucoup de personnes étaient déçues de la saison 2 parce que justement, oh, il se passe rien, c'est mou et tout. Oui, c'est ça que ça raconte en fait à un moment donné. Ça n'est pas que l'histoire de la violence, c'est aussi l'histoire de la non-violence et de comment réussir en fait à dépasser justement la violence, comment réussir à se pardonner et à pardonner aux autres, mais déjà surtout à se pardonner à soi, comment réussir à résoudre un problème, un conflit sans se battre. C'est ça le propos de la seconde saison en fait, c'est comment réussir en fait à rompre ce cycle de la violence. Est-ce qu'il donne une réponse? Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est sa réponse à Thorfinn qu'on a dans cette saison 2, moi, qui m'a beaucoup ému. J'ai eu un épisode où j'ai eu quand même des larmes, en fait, parce que le message est dur, parce qu'il fait encore écho même à des choses qui peuvent se passer aujourd'hui, en réalité. Voilà.
En fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que je pense que ça n'a rien à voir, et ce que tu viens de dépeindre. des différences entre les deux saisons, ça me fait penser à Kill Bill et le fait que les gens soient partagés. Ouais. Parce que Kill Bill, beaucoup de gens n'aimaient pas l'épisode 2, alors que moi, je trouve que les deux, c'est un ensemble, ça va vraiment ensemble. Mmh. Et il y a tout à fait du sens, même si je pense que c'est pas du tout le même sujet, et la même chose. Mmh. Mais il y a cette histoire quand même de vengeance au départ et de rage de se venger, etc. Mmh.
Et puis de rédemption.
Et puis d'avancer dans sa quête et de trouver autre chose et de se comporter autrement, même si c'est pas la finalité est pas pareille. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Et effectivement, une œuvre, c'est pas qu'une couleur ou une chose, quoi. Ça peut être plusieurs, donc c'est intéressant.
Exactement. Je vais vous passer un autre morceau, parce que je pense que je vais essayer de passer ce que je peux en opening pour parler après des animés. Et je vais vous passer un morceau de Delicious in Dungeon, ou encore Glouton et Dragon en français, avec l'opening Bump of Chicken. À tout de suite.
そっと絡まどう狂った光が歪み作った最初の友達空っぽの手をたやすく取られて連れ出されてから夢の中いくつかの普通が重なり合うと時々そこには魔法が宿るあれはおそらく悪魔だったあれから覚めない夢の過去の頑張りがないと気づいた。なくしてた子供を引き返せないこと。どうして体は痛がるの？心に何を求めてるの？愛が吸い込んだ続きの世界。何度でも会いたいの。血の分かち合い。から外れたままで迫られ続ける取捨選択何をどれだけ差し出したとしても届かないほどの宝物取り戻したいのか憧れたのか鏡の向こうを揺れて消えるそろそろ行こうかまだここじゃないどこまで覚めない夢の中
Franchement, ce morceau, j'adore, il donne le sourire et donne la pêche. Gloutons et Dragons.
Ça a l'air complètement
ça l'est. Ça l'est, mais pas que.
D'accord.
C'est sorti durant l'hiver 2024 sur Netflix, mais aussi Crunchyroll et il me semble ADN. Bref, ça sort sur beaucoup de plateformes différentes. Et tant
très
mieux.
Récent, là,
ouais,
c'est
très récent.
2024, l'actu, quoi.
C'est ça. Vraiment très récent. On va vraiment plonger dans un monde fantastique où des guildes partent en expédition pour piller les donjons. On va suivre des personnages prêts à tout pour sauver leurs compagnons, y compris briser le plus grand des tabous, celui de manger des monstres. Adapté par le studio Trigger, qui on doit Kill la Kill ou Cyberpunk Edge Runner, donc vraiment un studio de qualité au niveau de l'animation. Gloutons et Dragons nous promet vraiment quelque chose de fun et tout ça, et la promesse est-elle tenue? Je vais vous le dire tout de suite. Le titre original, c'est Dungeon Meshi, ou encore donc du coup Gloutons et Dragons.
C'est... Ça veut dire nourriture du donjon,
ouais,
j'ai lu.
C'est ça. On doit cette œuvre à Ryoko Kui, qui est derrière le scénario et le dessin. Il faut savoir que c'est publié depuis 2014 au Japon et publié depuis le 17 mai 2017 en France. Et donc tout récemment adapté en animé. Gloutons et Dragons. Ça se déroule dans un monde imaginaire, dans lequel un roi mystérieux est apparu d'un monde souterrain en danger, demandant de l'aide. Depuis, les aventuriers s'enfoncent dans ce monde souterrain et un véritable donjon en plusieurs niveaux est envahi de monstres de toute nature. L'histoire débute avec un groupe de 6 aventuriers affrontant un dragon rouge. Cependant, alors que le groupe avait jusque-là bien mené sa progression, suite à quelques problèmes, ils sont arrivés amoindris face à ce monstre. La défaite étant proche, la magicienne Farine utilise un sort pour téléporter son frère Laios et ses autres compagnons se sacrifiant. Enfin, pas tout à fait, car le dragon l'a avalé et met un certain temps avant de digérer. À la surface, le groupe se réveille et bien que 2 membres démissionnent, Laios décide de repartir sauver sa sœur avant que le dragon ne l'ait digéré. Marsile et Shilshock, ses 2 autres compagnons restants, l'accompagnent. Mais très vite, un premier obstacle se dresse devant eux. Ils n'ont plus d'argent et rien à manger. Laios les amène alors à se nourrir avec les monstres du donjon, assouvissant au passage sa curiosité, pour savoir quel goût ils ont. Ainsi, au-delà de l'aventure et d'exploration du donjon, leur périple devient surtout aussi culinaire. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Déjà, il faut savoir, je pense qu'on avait compris, il y a une grosse inspiration, bien sûr, à Donjons et Dragons, qui est plus qu'évidente. Alors, certes, déjà, il y a dans le titre, bien sûr, mais aussi au niveau des races des personnages. On va croiser humains, elfes, nains, semi-hommes, au niveau du bestiaire, avec des gobelins, dragons, slime et bien d'autres encore, mais aussi des mécaniques, les classes, le mana, l'équipement, la gestion de la trésorerie, etc. Et l'aventure...
Donc ça fonctionne comme un jeu, quoi.
Ça fonctionne comme un jeu de rôle, et avec l'aventure aussi à la taverne, parce que ça commence toujours à la taverne.
Ouais.
Bon, Donjons et Dragons, tu vois. C'est le point central pour former les équipes, échanger, commercer. Le donjon et ses niveaux, la gestion de la faim, de la fatigue, les feux de camp. Bref, on est dans Donjons et Dragons, mais... ça va plus loin.
Version bizarre.
Voilà, ça, c'est ce qui fait vraiment la base de ce jeu de rôle dans lequel on va se retrouver. On n'est pas dans sa parodie ou sa critique. Attention, hein, je veux vraiment qu'on fasse la nuance. Il y a pas cette volonté là. C'est plus un élément de support sur lequel vraiment l'auteur a décidé de se poser, de s'appuyer. Ça va pas se bercer dans les clichés, ça va pas se noyer dedans en fait. Mais ça va pas empêcher non plus l'humour d'être présent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a un elfe qu'on va avoir le cliché de l'elfe ou pareil avec le nain.
Oui.
Voilà, tu vois, c'est on n'est pas dans le pathos. Voilà, c'est il aurait pu tomber dedans, mais pas du tout. Et c'est peut-être là-dessus que je trouve qu'il est original, parce qu'il n'est pas tombé dans ce piège, tu vois, de son univers adapté de Donjons et Dragons. Au-delà de l'objectif de traverser le donjon et de délivrer Farine, les personnages, du coup, cherchent à se nourrir et à découvrir ce qu'ils peuvent manger et comment, en fait. Et c'est en ça que, du coup, il y a l'arrivée du nain, Senshi, avec ses connaissances en la matière, qui va les aider. Comme pour le jeu de rôle, on sent une affection quand même pour la cuisine chez ce maître nain. Mais malgré la nature des ingrédients, leur choix, la manière de les préparer, de les cuire avec soin, etc., il y a des vraies recettes en fait mises en place. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'au moment de cuisiner, est-ce que tu te rappelles par exemple dans Dr. Stone, quand il va mettre en place une invention,
oui,
il t'explique le comment, etc.
Oui.
Tu vois, t'as tout le cheminement.
Oui, oui.
Et ben imagine ça, mais pour la cuisine. Tu vois?
Il fait sa recette, quoi.
Voilà, c'est ça. Il va t'expliquer comment faire. Hop, couper en petits morceaux, émincer les machins, mettre un peu de sel, un peu de poivre, tata, tata. Il te fait vraiment sa recette de cuisine, en fait, dans l'animé. Et c'est fun, tu vois. C'est ce que tu pourrais presque te dire. Je vais prendre note, tu vois, mais de toute façon, t'en peux, mais voilà, c'est drôle, tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Il a un côté vraiment un peu envoûtant par certains aspects. Il est très coloré et très charmant aussi à regarder. Vraiment, il y a un côté soigné dans l'animation, dans les matières, dans les textures, dans les bruitages, surtout pour la cuisine, d'ailleurs, qui sont très bien retranscrits. L'ambiance est d'autant plus renforcée par les musiques signées Yasunori Mitsuda, à qui l'on doit les musiques entre autres de Chrono Trigger, et vraiment qui, avec un style qui correspond très très bien, je trouve, à cet animé, comme vous avez pu entendre avec entre autres l'opening, tu vois. On a des paysages d'animé fantasy que compte bon nombre de shonen, hein, que voilà, ou autres isekai, mais Glouton et Dragon propose quelque chose comme de différent, de je trouve, de frais et d'original, en fait. Dès les premiers épisodes, on montre à quel ce que l'auteur va vouloir nous présenter, ce que l'auteur va vouloir faire. Il y a une très belle introduction de ce que va être l'aventure de nos héros et de ce qui va les attendre et tout ça. Et donc, du coup, on a envie de découvrir la suite, on a envie de suivre cette histoire, en fait, avec eux, tu vois. Là, pour le coup, c'est un petit coup de cœur, voilà. Et pourtant, je trouve qu'il est assez confidentiel, tu vois. Il a une sortie un peu confidentielle, malgré le fait qu'il soit sur plusieurs plateformes. Et vraiment, si vous connaissez pas Delicious in Dungeon ou Glouton et Dragon en français, je vous invite vraiment à aller le voir, parce que c'est une belle curiosité, c'est frais, voilà, c'était rafraîchissant. J'ai bien aimé, tu vois. Voilà, j'ai bien aimé passer un moment avec ces personnages. Il y a des moments un peu tristes, mais voilà, il y a des moments où ça va être remonté avec de l'humour et tout. En fait, tu passes vraiment, tu passes un bon moment dans cet animé. Voilà. Je le conseille vraiment à tout le monde.
Ils font pas que de se castagner, alors, si?
Non.
Peut-être.
Non, ils font pas que se castagner. Il y a pas que ça, en fait. Il y a différentes choses. C'est dur parce que j'ai pas envie de trop en dire, parce que ouais. Chaque épisode. Ouais.
T'as peur de dire trop de détails, ouais. Sur comment ils ont mené le.
Oui, puis j'ai pas envie de dire ce qu'ils bouffent exactement, des choses qu'ils découvrent, comment. C'est. Voilà, au début, il faut dire que les personnages qui sont autour. Enfin, il y en a, ils sont un peu répugnés, quoi. Ils se disent, ah, je vais pas manger ça. Puis ils mangent, puis ils sont là. C'est quand même pas mal, en fait. Enfin, tu vois, voilà, il y a tout un délire comme ça autour. Et enfin. Voilà, allez le voir, c'est fun, c'est sympa, ça fait du bien de voir quelque chose comme ça, et puis surtout avec une OST qui est vraiment sympa.
Qui a l'air très sympa, dynamique.
Ouais, vraiment.
Mais sur un ton sympa, effectivement.
Complètement, complètement.
Peut-être moins stéréotypé que pas mal d'animés, comme on disait tout à l'heure.
Ouais, je suis d'accord.
En son, hein, je parle pas des histoires, bien sûr.
Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Cette fois, je vais vous laisser, parce que j'ai plus grand chose à dire sur Glouton et Dragon, parce que voilà.
Parce que tu veux pas en dire trop.
Parce que je peux en dire trop, mais vraiment, ça c'est un coup de cœur, voilà, un gros coup de cœur. On va parler de Shangri-La Frontière, mais juste avant, je vais vous laisser avec le deuxième opening de la première saison, avec Dungeon Danger par FZMZ. À tout de suite. Hey,
ライバルカルタの声は錆びじゃない。
sur Radioactive 101.FM avec Suck My Geek. J'aime beaucoup les openings de Shangri-La Frontière. Je t'ai fait écouter le premier, celui-là c'est le deuxième. Vraiment sympa. Voilà, c'est pour l'instant je suis voilà, je vous fais écouter les bons openings.
Oui.
On va arriver bientôt sur ceux qui sont un peu moins personnalisés justement et on va pouvoir aussi en parler de ça. Shangri-La Frontière, Isotome Rakuro est ce que l'on appelle un chasseur de booze, un joueur dont la principale occupation consiste à trouver et à terminer complètement les pires jeux vidéo qui existent. Après avoir achevé une booze à la difficulté particulièrement élevée, Isotome se laisse tenter par Shangri-La Frontière, le VR MMO du moment qui compte déjà près de 30 millions d'inscrits. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce jeu recèle de nombreux secrets et que même un expert comme lui, qui est déjà venu à bout des jeux les plus difficiles, pourrait bien se retrouver démuni face à ce qui l'attend. Sous son pseudonyme habituel, Sunoraku, Isotome entame une aventure qui promet d'être bien différente de ce que l'on a l'habitude. Alors, Shangri-La Frontière, faut savoir que voilà, c'est un manga à l'origine qui n'avait pas forcément eu un gros succès, un gros engouement à sa sortie, à son lancement. Mais voilà, il a suffi que l'anime débarque pour que tout d'un coup les choses changent pour ce manga. Je sais pas, je suis très partagé sur cet animé, en fait. Voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai regardé le dernier épisode tout à l'heure, d'ailleurs, parce que donc c'est sorti hier soir, le dernier épisode de cette première saison, qui laisse qui finit vraiment en mode, ah, ça finit comme ça, c'est un peu raide quand même. Donc, voilà, j'ai quand même eu envie de voir la suite. L'animation est vraiment très 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 belle. Il faut savoir que le manga est disponible chez Glénat et que l'anime est en simulcast sur Crunchyroll. Il y a beaucoup d'enjeux en fait dedans dans cet animé, voilà, qu'ils essaient de poser. Il y a beaucoup de choses qu'ils essaient de mettre en place avec pas mal de personnages pour essayer d'accrocher le spectateur. Il y a des moments où je me demande si c'est pas des fois un peu trop, même si je trouve que l'un des points forts qu'ils ont, c'est que même si ça parle de VR et MMO, ils font en sorte que ça puisse parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer les choses sans que ce soit trop lourd. Donc même quelqu'un qui est néophyte dans l'univers des jeux vidéo, des MMO, va comprendre ce qui se passe, ce qui est dit, etc. Ça, c'est le côté que je trouve bien. Après voilà le scénariste. Alors c'est scénarisé par Katarina et dessiné par Ryosuke Fuji. Et actuellement donc l'anime est adapté par le studio C2C. C'est pas facile en fait à décrire Shangri-La. Parce que le problème qu'il y a, je trouve que depuis qu'il y a eu Sword Art Online qui est sorti, donc il y a quelques années maintenant, qui parlait déjà des VR MMORPG, il y a eu tout un truc, toute une mode d'un coup qui s'est lancée où tout le monde a voulu aller dedans. Et on s'est retrouvé avec plein d'isekai. Donc les isekai dans les mangas, dans les animés, c'est ceux qui se passent dans un autre monde ou dans un autre jeu vidéo, dans un univers fantasy où en fait le personnage va être transporté, transféré, d'accord. Dans Sword Art Online, c'est ce qui se passait avec le personnage qui se retrouvait enfermé dans le jeu vidéo et qui du coup avec les autres cherchait à y survivre, à en sortir. Là en fait, on n'est pas, donc les personnages sont pas enfermés dans le jeu vidéo, mais on vit à travers le jeu vidéo du coup leurs aventures. Et du coup, le parti pris du on n'est pas enfermé dedans, on n'est pas coincé et on essaie de vivre une aventure et de nous la faire partager à nous, spectateurs, c'est intéressant. Quelques-uns, il y a beaucoup d'animés qui essayent de faire ça, en fait, justement, quand même. Mais là, ils sont partis sur l'idée de, on va pas suivre forcément un personnage qui n'est que surpuissant ou qui est, tu vois, un énième comme ça. On va surtout suivre quelqu'un qui, par son expérience de jeu, va essayer de vous faire découvrir l'univers qu'on a envie de vous montrer, le lore du jeu vidéo. C'est intéressant comme parti pris de se dire, on va pas voir du level up de personnage, mais plutôt de quoi l'univers, de qu'est-ce qu'il est question à travers l'univers. Et beaucoup de PNJ que le personnage va rencontrer, que les personnages principaux vont rencontrer, parlent de ce secret, de ce monde derrière le monde, et pourtant, les PNJ, ce sont des IA hein, qui ont été développés par les développeurs derrière le jeu. Mais tu sens que même les développeurs sont un peu dépassés par leur propre jeu, ou en tout cas par le fait que ils n'attendaient pas à ce que certains découvrent les éléments du lore aussi rapidement, en fait. Bref. Et donc du coup, on a envie de comprendre un petit peu aussi un petit peu cet univers. On a envie de voir un petit peu où ça va. voilà, c'est cool. C'est cool à regarder. L'animation est vraiment très belle. Par contre, voilà, je tiens vraiment à dire que l'animation, les combats, tout ça, sont super dynamiques. Surtout quand il affronte l'une des sept créatures légendaires de cet univers. Pareil, j'ai pas trop en dire. Vous allez le découvrir, mais le combat est vraiment épique et fun en même temps. Et franchement, je trouvais que c'était plutôt sympa. Ça foisonne de bonnes idées quand même assez originales, encore une fois, même si il y a le support du MMO, il y a des choses qui sont amenées qui sont assez intéressantes avec les personnages et tout ça, qui sont qui permettent en fait vraiment d'amener un gros point fort sur le divertissement en fait. Voilà. On va vraiment suivre ça un petit peu, c'est les péripéties de Sunraku qui va se retrouver vraiment happé par ce VR MMO, qui va du coup découvrir que même si c'est pas une bouse, ça va l'abuser en fait, parce que c'est quelqu'un qui voilà, qui a un problème, enfin qui est assez taré à vouloir faire des jeux de merde, tu vois, et de les finir, mais voilà, c'est intéressant. Mais c'est cette expérience de ces jeux de merde qui fait que du coup, il va être capable d'aller beaucoup plus loin dans un jeu où il n'y a pas de bug, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Voilà, bref.
Alors j'ai vu que au départ, en fait, c'est du roman. Ces histoires, elles sont parties de romans qui n'existent pas d'ailleurs en version publiée. C'est que du web novel en fait, qui est écrit par Katarina, qui est liée en fait aux autres développements. Le manga édité a été réécrit par cet auteur et ensuite a priori tout est lié quoi dans le développement aussi de l'animation. Il y a un jeu a priori qui est en cours de développement.
Ouais, j'ai vu.
Alors je sais pas quel type de jeu.
Je sais pas, j'ai vu quand je cherchais les musiques, peut-être j'étais tombé sur un truc, donc a priori ça va être les images du jeu sur lequel je suis tombé.
D'accord.
C'est un peu classique
du business,
de ouais, peut-être. C'est ça. Ouais. Donc je m'attends pas à grand-chose.
Alors la première saison, donc elle a démarré en octobre 2023 et elle vient de se finir, tu l'as dit. Ces jours-ci, et la deuxième saison elle est annoncée pour octobre 2024.
Ah oui, déjà ?
Ouais, donc ça va pas trop traîner.
Effectivement. Ouais. Effectivement.
Donc tu sauras vite si ça vaut le coup. Pas de
ouais. Mais après, encore une fois, c'est fun, tu vois, il y a des moments qui m'ont amusé quand même, où j'ai quand même souri, rigolé, tu vois, sur des scènes et tout. On va retrouver bien sûr certains stéréotypes, mais tu tombes toujours sur les stéréotypes, c'est normal, ça fait partie de... C'est dans l'écriture, voilà. Mais détourner un petit peu quand même, tu vois, je trouvais ça intéressant. On a un personnage qui est toujours dévoré par la curiosité de toujours en découvrir plus. Et vu que, et ça c'est le côté fun, je pense, vu que du coup mourir dans ce jeu n'a de conséquence que de retourner au point de sauvegarde, tu vois, au dernier point de sauvegarde, voilà, ça enlève certaines tensions en fait qu'il peut y avoir. Et c'est ça que je pense qu'ils ont voulu montrer. C'est pas un univers où tu dois être en tension, justement, où tu dois avoir peur pour la vie des personnages. Tu vois ce que je veux dire? C'est non. On est là pour découvrir une histoire, pour découvrir une aventure qu'ils vont vivre à travers ce jeu. Voilà. C'était intéressant. Voilà. C'était intéressant. Le prochain, écoute, on va rester dans le thème. J'hésitais à savoir quel morceau j'avais passé. Je vais vous passer le morceau de l'opening Level de Solo Leveling. À tout de suite.
どうせやっとしそう取り上げられる希望 Sorry to be a star Wasn't born to raise the bar ごまかしの正義は誰も壊せないアラームのようだ Feeling 喜怒哀楽をクリーンしないで声を Free me Let's get itThank you.
Radioactif, sympa le FFM avec My Geek. C'était l'opening de Solo Leveling. Justement, on a parlé de Shangri-La Frontière. J'ai parlé un petit peu de à quoi ça fait écho dernièrement. On va parler de Solo Leveling d'une autre manière. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une solution pour ne pas finir massacrée par les monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Jin Woo-sung, un chasseur de rang E, considéré comme le plus faible de tous, se rend avec une équipe dans un donjon de rang D. Cependant, alors qu'il se retrouve piégé dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon, Jin Woo succombe. Alors qu'il pensait être mort, il se réveille à l'hôpital avec une étrange capacité, une interface virtuelle qui lui permet de devenir de plus en plus fort. Parviendra-t-il à devenir le chasseur le plus puissant grâce à cette étrange capacité ?
Ok.
Après avoir convaincu quand même des lecteurs du webtoon du monde entier, Solo Leveling, donc ça s'adapte aujourd'hui sur les écrans. C'est une espèce de blockbuster, faut être clair. Ça sort dans le même genre que les blockbusters, avec toute une communauté derrière, qui vont suivre un petit peu cette adaptation. Le truc qu'il y a, c'est que ça fait écho en fait encore une fois ces mouvements avec ces isekai qui imposent leur genre en fait, tu vois. Et celui-ci n'est qu'un pour moi, qu'un bon de commande en fait, tu vois. Enfin, il a aucune vraiment originalité. Pourtant, je vois les gens, ils sont emballés avec ça. Sword Art Online, c'était diffusé en 2012 par le studio A1 qui est Picture, qui est celui qui se retrouve derrière Solo Leveling. Donc, c'est une espèce de maître en la matière, hein, d'expert dans le domaine, avec ce côté très, cette ressources inépuisables de ces 10 dernières années. Ça fait 10 ans en fait qu'on en bouffe des isekai comme ça, avec ce même concept. Et Solo Leveling, donc une espèce de phénomène qui est venu tout droit de la Corée.
De Corée du Sud, ouais.
Ouais.
Qui est terminée. Hein,
tout à fait.
La publication, elle s'est terminée en 2021 en Corée du Sud. A priori, donc
avant, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Solo Leveling donc est une espèce de success story en fait. Il y a eu des débuts en 2016 et la sortie du dernier chapitre a été en mars 2018. Et à peine sorti ce dernier chapitre, qui s'est offert une seconde vie sous la forme de webtoon qui a du coup propulsé le triomphe derrière de cette histoire, ouais, de Solo Leveling, par le public coréen qui s'est popularisé sous forme à ce format de webtoon à l'international, donnant naissance aux premières localisations de l'œuvre, et il a posé ses valises en janvier 2021 par le biais des éditions Delcourt sur la plateforme Veritoon en fait. Voilà.
D'accord. Alors en fait, j'ai pas les mêmes infos. Bon, déjà, les supports, ils sont pas tous d'accord entre eux sur, sur l'histoire. Effectivement, j'ai compris, moi, qu'en Corée du Sud, il y a 14 volumes. Que chez nous il y en a 12, enfin bref, j'ai pas trop bien compris. Et du coup après il y avait cette animation qui était a priori très attendue, qui vient de démarrer en fait en janvier.
C'est ça. Alors effectivement, c'est devenu une espèce d'incontournable pour les lecteurs du monde entier. Hein. Et donc l'adaptation a été attendue avec une tâche qui a été confiée, comme j'ai dit, au studio A1 Pictures. Donc forcément, ces experts japonais de l'animation qui ont donné vie à Sword Art Online, on décide de pousser les curseurs au maximum. Je trouve l'opening, par exemple, qui reste dans le côté pop japonais, pop culture très très actuel, hein, en fait, de ce qu'on peut entendre.
Oui, il est fun, mais après, est-ce qu'il sera reconnaissable parmi d'autres
Voilà.
Faut savoir. Ouais.
Bah en fait, c'est ça. Et est-ce que Solo Leveling est vraiment reconnaissable parmi d'autres? Je trouve pas, en fait. Qu'est-ce qu'il a de plus que bien d'autres, en fait, que j'ai pu voir? On est sur un personnage qui d'un coup se retrouve, donc c'est cliché du mec qui est le plus bas, le plus faible de tous, qui d'un coup se retrouve le plus puissant de tous très très vite, en plus très très vite, le mec qui va se retrouver assez surpuissant, en plus physiquement il change, tu comprends pas trop d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils l'ont changé physiquement à ce point là en fait, à ce point là il a grandi, il a pris 20 cm de plus, les mecs, le visage, la coupe de cheveux, tout a changé. T'es là, tu fais quoi? Là, j'ai pas compris le délire, tu vois, personnellement, ou alors c'est moi qui suis passé à côté d'un truc. Et ouais, il va se retrouver, tout le monde est là, ouais, vous êtes pas prêt pour la suite, attention, ça c'est rien par rapport à ce qui va être plus tard. Ah ouais? Ah, parce que là je trouve que c'est déjà pas mal, donc ça veut dire ça va jamais s'arrêter en fait, ce niveau de puissance, et avec ce côté en fait très cheaté, tu vois, parce que lui il a un truc virtuel devant lui qu'il y a que lui qui voit, qui permet de faire des quêtes journalières, des machins, hein. L'animation est folle. L'animation est superbe. Par contre, voilà, A1 Pictures, ils sont très très bons. J'ai rien à dire au niveau des visuels. L'animation est très très bonne. Les impacts, les combats et tout ça sont hyper bien transcrits. Tu les sens, en fait, les coups qu'ils peuvent prendre, qu'ils peuvent porter, etc. Ça, c'est le côté fort de Solo Leveling, et je pourrais pas l'enlever. Il y a l'adrénaline, tu vois, quand même, tu vois, qui va être portée à l'écran. Mais est-ce que vraiment il se démarque de tout un tas d'autres du genre? Non, vraiment non. C'est l'histoire elle est banale en plus. Enfin, toi, c'est.
Il y a une suite a priori qui est en cours de publication depuis avril 2023.
D'accord.
Solo Leveling Ragnarok. Alors ça, c'est pareil, moi, dans les titres que tu as pu... Y a pas beaucoup, ça ne concerne pas beaucoup de ce dont tu parles aujourd'hui, pardon. Mais les titres qui font référence à d'autres œuvres, mais qui ne sont pas liées à ces œuvres-là, et ça me dérange un peu, en fait. C'est pas très original, en fait, ça ne démarque pas du tout les œuvres, quoi.
Mais c'est ça.
Et du coup, ça fait référence à des œuvres devenues cultes, ou en tout cas très importantes dans le monde de la BD ou autre, ou des comics, là, en l'occurrence, mais, et qui vont permettre de toucher peut-être un public, d'intéresser un public vaguement, qui par un terme ou un nom va dire: attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, non. Soit je me suis trompée, soit tiens, je vais regarder pour voir. C'est un peu, moi, ça me dérange un peu, en fait.
Bah ouais, puis c'est un côté...
Niveau imagination, ça... niveau...
En fait, on est submergé par les poncifs du genre Isekai, en fait, comme ça et tout. Et j'avoue, je commence à avoir une espèce... Enfin, ça fait un moment que j'ai une overdose de ça. À chaque fois que je cherche quelque chose à regarder, j'ai l'impression qu'il y a presque que ça. Est-ce que ces animés ont encore leur place en 2024?
C'est peut-être pour ça que Glouton et Dragon... Glouton et...
Glouton et Donjon m'a fait du bien.
Te fait rire, ouais.
Glouton et Dragon, ouais.
Je sais plus.
C'est ça, Glouton et Dragon, ça, enfin, Deus in Dungeon, m'a fait du bien. Vinland Saga m'a fait du bien. J'ai presque plus de temps, mais voilà, j'ai vu dernièrement Ragnar Crimson, qui, pareil, encore sur l'histoire de level up, mais voilà, on n'est pas dans les isekai là, on est sur un monde fantastique sympa. Il y a Majo To Yaoju ou The Witch and the Beast, l'histoire avec des sorcières et tout. Vraiment fun, je prendrai le temps d'en parler un peu plus tard, peut-être lors d'une prochaine émission. Parce que j'ai pas tout vu et je préfère quand même aller jusqu'au bout avant de faire une critique totale de cette œuvre. Parce que ça le mérite quand même. Après, voilà, il y a différentes choses qu'on attend avec une réadaptation de One Piece, par exemple. La sortie de la saison 4 Demon Slayer, pardon, excusez-moi. je trouvais plus le nom.
Donc ça, c'est à sortir en 2024.
Ouais, tout ça c'est censé, enfin 24-25. Voilà. Sinon, voilà, il y a quand même Blue Eye Samurai. Ça fait deux fois que j'essaie d'en parler, deux fois que je m'en trouve à la course de temps.
Ah,
c'est
non.
Pas grave. C'est comme ça. La vengeance est un plat qui se mange froid et Mizu, personnage principal du bijou d'animation de Netflix, Blue Eye Samurai, semble préférer la sienne glacée. J'aime bien cette description que j'ai trouvée. Arrivée début novembre sur Netflix, la série d'animation Blue Eye Samurai a fait l'unanimité par la critique et je suis d'accord avec cette critique. Ce n'est pas pour les enfants. Je préviens tout de suite. Attention, c'est très violent. Ça avait réservé un public adulte. C'est vraiment une superbe histoire. Ce qui se passe à l'époque Edo, donc au XVIIe siècle, les frontières du Japon sont fermées au monde extérieur et interdit aux étrangers de poser le pied sur le territoire nippon. Voir un visage autre que japonais est donc presque impossible, sauf dans de rares cas de commerce illégal. L'histoire de la série suit Mizu, jeune femme métisse aux yeux bleus, contrainte de cacher son genre et son origine pour assouvir son désir de vengeance, tuer les quatre hommes blancs présents au Japon lors de sa naissance et ainsi laver le déshonneur de son existence. En chemin, elle fera la rencontre de Ringo, un cuisinier plein de rêves, Taigen, un samouraï arrogant, et Akemi, une princesse en quête de liberté. La place des femmes à cette époque a une place centrale dans l'intrigue et est explorée sous deux angles opposés. D'un côté, il y a Mizu qui cache qu'elle est une femme pour pouvoir survivre, devenir samouraï et accomplir son objectif. De l'autre, Akemi, forcée d'épouser un homme choisi par son père et prié de tout libre arbitre. L'écriture des personnages est vraiment très fine et chacun évolue au cours de la série de manière logique et réaliste. L'animation est dingue, l'OST est dingue. J'ai adoré, j'ai passé un moment super devant. Il y a une saison 2 qui est prévue, j'ai hâte de qu'elle sorte. Parce que franchement, là, pour le coup, Netflix a fait très 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 fort avec avec Blue Eye Samurai. C'est une bouffée d'air frais dans le paysage de l'animation.
Ah, bah voilà.
Ça marque vraiment une évolution nette des techniques d'animation numérique qui mélange vraiment le 2D et le 3D dans la ligne un petit peu des Spider-Man Into the Spider-Verse que je conseille aussi de voir. Ou le chapeauté 2 dont j'ai vu les extraits et qu'il faut absolument qu'on regarde Sylvain.
<D'accord. rire>
Voilà. Même des grands noms de jeux vidéo comme Hideo Kojima avec Metal Gear Solid, Death Stranding ont salué la qualité de l'animation et de l'écriture de la série. Donc pour tous les fans de Mizu aussi, qui comme moi attendent la saison 2, elle est prévue pour 2025. Il y a un spin-off sur Ringo, son apprenti rêveur, qui sera également en réflexion. Bref, j'ai hâte de voir ça parce que ça a fait du bien. Je l'ai vu comme ça sur les propositions en fait sur Netflix et c'était vraiment une journée où je savais pas quoi foutre, tu vois, où j'étais je sais pas quoi regarder, je sais pas quoi faire. Je me suis dit tiens, je vais regarder ce que c'est et j'ai tout dévoré d'une traite en fait. J'ai tout bouffé d'une traite. Je me suis pas arrêté et j'ai fait waouh, tu vois. J'ai pris ma claque devant. Ouais, donc du coup j'ai regardé ça sans toi.
Bah oui. Voilà. Bah, ce que je te propose c'est justement alors vu que 2025 on va attendre un petit peu du coup pour la suite. Moi j'ai le temps de regarder ça tranquillement, ouais, dans les mois qui viennent et peut-être dans ce cas on pourra parler de cette œuvre plus en détail dans une autre émission.
Carrément, je suis d'accord. Bon ben voilà, c'était les animés que j'ai vus dernièrement.
Les animés conseillés ou pas d'ailleurs,
oui,
mais de
voilà,
la saison.
C'est ça. Exactement. Donc voilà. Pour le reste, écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine, normalement avec toute l'équipe. Quant à nous, vous pouvez nous réécouter en rediffusion samedi de 17h à 18h.
Retrouvez les replays sur radio-active.com.
Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission
Suck My Geek.
Moi, je vous laisse avec un morceau réadapté de Metallica, For Warm the Bell Tolls, qu'on retrouve dans Blue Eye Samurai version japonais. Allez, à la semaine prochaine.
Ciao.